La parole est à la salle. Quelques questions ?
Merci pour cette présentation, enfin, je trouve que c'est super. Et ce que j'ai vu de particulièrement intéressant, c'est que le secteur sur lequel vous avez fait les tests et vous avez le plus de tests, qui est le secteur eau salate, c'est celui qui, d'un point de vue histoire des introductions par la truite noire du Saint-Gironais, la société, est documenté le plus richement depuis les années 1920. C'est-à-dire que depuis les années 1920, il y a des carnets journaliers d'introduction de poissons où ils mentionnent les origines des alevins qu'ils introduisent. Donc je pense que ça vaudrait vraiment le coup qu'on croise ça, parce que là, c'est un cas d'étude, à mon avis, et un cas d'école extraordinaire. Ah, ce qui est sûr, c'est qu'elle venait d'à peu près partout, quoi. Et alors, concernant aussi les géniteurs sauvages, la préoccupation, elle n'est pas récente du tout. C'est-à-dire, c'est une préoccupation que l'on retrouve dans des écrits de Belloc, qui est le précurseur de la pisciculture, à la fin du 19e, et où ils disent qu'il faut absolument privilégier les souches sauvages. On est en train de commettre une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une préconisation écologique avant l'heure, qui est même de conservation des patrimoines, sans que ça soit nommé, pour vraiment préserver. Mais par contre, il y a les plus grandes peines du monde à récupérer des géniteurs, parce que les rivières en sont quasiment désertes. C'est-à-dire que les géniteurs qui prélèvent sont souvent des truites qui ont été lâchées 20 ans plus tôt. Enfin, ou qui font partie de la filiation de ces truites-là. Quoi.
Donc, sur l'Ariège, la seule trace, c'est des géniteurs prélevés dans l'Aston au milieu des années 70. C'est la trace que l'on a, nous, en fédération.
Ah, moi, j'ai une trace qui est vachement plus simple. Enfin, je peux t'envoyer les documents. C'est les prélèvements dans les années 20, dans le lac des Comptes. Ils vont prélever les truites pour les géniteurs dans les années 20. Ils font des systèmes de piégeage avec des filets, etc. Je pourrais t'envoyer tout ça.
De tout et partout. Voilà ce qu'on a fait.
Concrètement, quelle politique envisagez-vous pour conserver ces truites exceptionnelles qui risquent d'aller se mélanger par introgression avec des souches qui elles-mêmes ont subi beaucoup d'introgression? C'est le problème des réservoirs de biodiversité et puis de leur communication.
Mais aujourd'hui, vous l'avez compris, si ces truites sont encore présentes, c'est qu'elles ne sont pas en contact avec les autres. Et si elles ne sont pas en contact avec les autres, c'est en partie, surtout en raison d'obstacles infranchissables naturels. Le tête du Garbette, c'est une cascade comme ça. Donc il n'y a aucune communication avec les truites du bas. Et comme nous n'en mettons pas, nous sommes en gestion patrimoniale, il ne peut y avoir aucun contact. Les seuls contacts par des valaisons des lacs. C'est pour ça que sur certains lacs, on l'a dit, nous sommes en patrimonial aussi, pour éviter des phénomènes de dévalaison. Mais sur le Garbette, vous pouvez trouver des truites des truites arc-en-ciel, par exemple, que l'on retrouve à Aulus, alors qu'on n'en met pas, et qui viennent du lac du Garbette. Ça peut arriver, oui, absolument. Mais en tout cas, nous ne déversons plus de poissons sur les torrents, ça s'est terminé. Et vous avez vu sur O16, par exemple, ou sur le Ciscar. Le Ciscar, c'est une pollution à la Javel, qui a eu lieu dans les années 75. Tout le plateau, il y a eu 100% de mortalité. On a mis les poissons de pisciculture, ils se sont tous installés. Voilà, le plateau de Ciscar, si vous allez sur la carte interactive, vous verrez qu'il y a 90% de gènes domestiques sur le Ciscar. Voilà un exemple classique. Quand il n'y a pas de compétition entre sauvage et domestique, la domestique s'acclimate et se naturalise.
Oui, est-ce que la mise en évidence de ces populations différentes ne montre pas plutôt que les truites, en fait, c'est une espèce finalement plutôt sédentaire? Au-delà du mythe en fait, du grand poisson voyageur qui franchit les rapides. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on observe des petites familles, quoi, des tribus finalement de truites qui ne bougent pas tellement de leur coin.
Vous avez vu, dans le cas de ces petites tribus, c'est le cas. Elles ne peuvent pas descendre, elles ne peuvent pas monter. Voilà, c'est ça, c'est des obstacles naturels infranchissables. Donc elles sont confinées dans des petits endroits. Donc c'est pour ça que quand on analyse les valeurs génétiques, elles sont très pauvres. Donc elles ne peuvent pas réagir à des bouleversements. Il ne faudrait surtout pas rajouter de la diversité artificielle, parce qu'on les appauvrira encore plus. Il faut les laisser. Par contre, effectivement, tous les scientifiques, tous les généticiens le disent, il faut maintenir les effectifs les plus grands possibles, les plus larges possibles, pour avoir une diversité génétique la plus importante. On en entend pour les tigres, pour les orang-outans, tous les scientifiques parlent de ça. Il faut maintenir des effectifs pour compenser les effets délétères de cette dérive génétique qui les appauvrit. Donc, effectivement... Oui. Eh oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, bien sûr. C'est ça. Mais je veux dire, on peut artificiellement accélérer ce phénomène par la pêche. Imaginons que tous les pêcheurs aillent sur le plateau du Garbette tous les jours pêcher. Je ne suis pas persuadé qu'on arrive à maintenir la pérennité de l'espèce. Donc artificiellement, on peut accentuer les effets de la dérive génétique, bien sûr.